Bonjour à tous, Sébastien Vernis. Donc, je suis président fondateur de Price Comparator. C'est une agence digitale au départ qui est devenue éditeur de logiciels. Et on est devenu éditeur de logiciels en veille concurrentielle. C'est une société de 7 salariés qui a maintenant 6 ans et qui est basée à Montpellier. Je vais vous raconter une petite histoire du coup avec un de nos clients. Ce sera assez parlant et je pense que vous pourrez facilement vous associer ou en tout cas vous projeter sur cette expérience-là. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, de par la diversité des offres qu'on a en ligne, c'est devenu vraiment essentiel de savoir ce qui se passe et donc de faire de la veille. Aujourd'hui, pour bien vendre, que ce soit online ou offline, c'est devenu exactement la même chose. Il faut savoir ce qui se passe chez les autres. Et la meilleure façon de savoir ce qui se passe chez les autres, c'est de mettre en place des outils pour récupérer cette information parce que c'est devenu trop chronophage, trop dense, trop nombreux. Il y a trop d'informations, donc il faut arriver à faire cette synthèse. Et vous le savez certainement déjà, mais en tout cas, l'évidence, c'est qu'il y a trop de choses et que sans l'automatiser, ça devient compliqué. Alors rapidement, le contexte, vous le connaissez, je ne vais pas m'étaler dessus. Je ne m'étale pas dessus parce qu'on l'a vu juste avant. Voilà, c'est bon, c'est tout bon pour moi, je pense. Oui. En gros, la tendance, c'est simple. C'est que en 2018, il y avait près de 100 milliards d'euros de e-commerce, d'achat e-commerce. C'est encore en croissance. On va dépasser les 100 milliards en 2019, c'est certain. Vous savez combien il y a de sites e-commerce en France, à peu près? 200 000. Donc, c'est à peu près le panel. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sites, beaucoup de nouveaux qui naissent, autour de 20 000 chaque année. Donc, c'est hyper dynamique. Beaucoup qui meurent, beaucoup qui naissent. Il y a un gros turnover. On l'a dit, le nombre de transactions augmente, les paniers moyens baissent, mais le nombre de transactions augmente, les frais de port gratuits, aidants, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sur ce graphique-là. En gris, vous avez le nombre de sites et en rouge, vous avez la répartition du chiffre d'affaires. Donc en gros, vous avez 77% des sites qui font 2,5% du CA global du e-commerce, donc nos 100 milliards. Et finalement, la zone de confort, donc là, vous savez qui est là, c'est mes petits GAFA préférés, entre autres, c'est Discount et autres. La zone qui nous intéresse, en fait, elle est entre les deux. C'est les 5% qui sont là, et l'enjeu, c'est comment je fais quand je suis e-commerçant pour ne pas me faire bouffer par les GAFA. Et pour être dans les 5% qui font entre 1 et 10 millions de CA. Ou plus, bien sûr, mais voilà. Comment est-ce que je fais pour être dans cette zone-là et y rester ou y aller si je n'y suis pas encore? Donc moi, c'est vraiment là-dessus que je pense qu'on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et on va voir de quelle façon ça peut se faire. Alors, quel est le problème? On a une tonne d'offres. On a une tonne on a plein de choses. Vous avez des offres, des marketplaces, des sites e-commerce donc, qui pullulent. Une densité qui est vraiment forte, des prix qui sont avec une variabilité très forte. Donc, on a un environnement qui est hyper dynamique, hyper agressif, plein de concurrence. C'est valable pour mes e-commerçants, mais c'est valable aussi pour les franchisés, les grossistes. En fait, même un restaurant, on a des demandes des fois de restaurants qui nous disent « Ouais, mais moi, des fois, le samedi, j'ai personne, qu'est-ce qui se passe ?» Bah écoute, t'as qu'à surveiller un tout petit peu les Facebook de tes voisins, qui sont eux-mêmes des restaurateurs, et le jour où il fait une opération spéciale, un acheter un offert ou un menu spécial ou je ne sais quelle promotion, eh ben, c'est un jour où forcément il va te gréver un peu de ta clientèle. C'est vraiment très simple, c'est très basique. Le tout, c'est qu'il le sache et qu'il le mette en place. Ça lui évite d'avoir deux serveurs qui s'ennuient. Donc soit il les congédie, soit il fait lui-même une offre en réaction pour essayer de remplir son resto. Donc tout le monde est concerné online, offline. Là où ça se complique, c'est qu'on n'est pas seulement sur une variable prix. La décision d'achat, maintenant, elle est vraiment beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe. On va être sur des éléments typiques livraison. Est-ce qu'il a en stock ou pas? Est-ce qu'il peut me livrer vite ou pas? Combien ça coûte? On a les avis clients. On a aussi des... Est-ce qu'il y a de la sollicitation avis par les réseaux sociaux, etc. Et puis, la dernière brique, la plus pénible pour tous les e-commerçants, c'est l'offre. Les offres qui sont proposées, donc les différentes sources de marketing qui sont utilisées, des emailings, des bannières, des publicités payantes, de AdWords, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme démarchage marketing, comme campagne marketing, et du coup qui rendent la collecte de ces informations, en tout cas la veille de ces informations particulièrement complexe. Alors pourquoi est-ce que ça devient compliqué, voire impossible? C'est qu'avant, on arrivait à faire ça à la main. Aujourd'hui, bah, si vous essayez, vous essayez sûrement, si vous êtes e-commerçant, ça devient hyper chronophage. Et même à la fin, on se dit, c'est mort, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir ce qui se passe sans arrêt chez les autres parce qu'il y a trop de... il y a trop de choses, c'est trop dense. Juste une question, quand vous achetez en tant que consommateur sur Internet, est-ce que vous prenez 30 secondes pour comparer avant d'acheter? Personnellement, oui. Ok. Bah, en fait, vos clients, bah, ils le font aussi. Donc, si vous êtes e-commerçant et que vous ne faites pas ce boulot pour vous-même, bah, vos clients, ils le font. Quand ils font un achat, ils le font maintenant. Donc, ils comparent maintenant. Si vous êtes bien placé maintenant, c'est gagné. Si vous êtes mal placé maintenant, c'est perdu. Donc, l'enjeu, il est de savoir à peu près tout le temps bah, comment vous êtes placé, est-ce que c'est le bon moment pour vous ou pas d'être compétitif, et puis accessoirement aussi d'essayer de marger un peu, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, je vous donne mon cas client, qui est un client historique avec lequel je travaille. On est sur un secteur de vente de détail de commerce, orienté sport et dans le secteur en particulier de la plongée sous-marine. C'est une société anonyme à responsabilité familiale, 7 salariés, de père en fils, voilà, une entreprise tranquille qui est née il y a une dizaine d'années à peu près, donc avec Internet. Son premier site e-commerce est arrivé à peu près il y a 12-13 ans de mémoire. Et puis qui fait grandir doucement son chiffre d'affaires. Son problème, c'est qu'elle a un concurrent historique qui s'appelle Le Vieux Plongeur à Marseille, qui est le précurseur de la plongée en France et accessoirement sur Marseille, donc un endroit bien sympa. Je précise, la Palanquée, c'est Montpellier, là d'où je viens. Son concurrent principal, qui est le Vieux Plongeur, entreprise également familiale, qui s'est fait racheter par Decathlon il y a, je vais dire une bêtise, mais environ 5 ans, un peu plus. Donc pas sous la bannière Decathlon, mais c'était avec le groupe Oxylane. Et forcément, aujourd'hui, ça a été racheté par Cabesto, et je vous expliquerai après comment ça s'est organisé, mais voilà, il y a vraiment un problème pour lui. Ils étaient à peu près côte-côte en termes de chiffre d'affaires, voire le Vieux Plongeur était au-dessus il y a 5-6 ans. Et bah, voilà, le moment où Decathlon arrive, grosse pression, gros enjeu, comment je vais faire? Lui, il a des moyens qui sont démentiels en termes de marketing. Moi, je suis une petite entreprise familiale. Pour dire vite fait les choses, je ne comprends rien à Internet, même si j'ai lancé mon premier site et que ça fonctionne, mais voilà, c'est un peu le marché qui fait l'opportunité. Et pourtant, j'ai des ambitions, j'ai envie de devenir le leader français, j'ai envie de réussir, et j'ai pas envie de me faire bouffer surtout. Et quand on a en face quelqu'un qui vient racheter déjà un gros concurrent, entre guillemets, et qui s'appelle Decathlon, la pression, elle est quand même assez forte. Alors, comment ça s'est passé? La chance, c'est que moi, je suis moniteur de plongée et ce secteur-là, je le connaissais vraiment très bien. Donc, c'est le premier dans lequel je suis allé. Et j'ai commencé, la solution, elle est née justement avec cet exemple et avec ce cas concret. Donc, on a mis en place notre solution qui s'est construite avec l'expérience et qui permet de surveiller en fait toutes les actions marketing qui sont déployées sur Internet. Donc là, c'est le secteur de la plongée. Et donc, quand je dis toutes les actions marketing, c'est... moi, j'ai toujours une pensée mix marketing, si vous connaissez cette abréviation. C'est pour donner toutes les dimensions du marketing, c'est prix, produit, promotion et distribution. Le dernier P, c'est place. C'est les 4 P de prix, produit, promotion, distribution, qui est place en anglais. Et donc, la solution permet de surveiller les prix, mais aussi le catalogue des produits qui sont là. Donc, j'ai mon produit. Les stocks, ça va avec prix et produit. Et puis, distribution, bah, c'est de quelle façon est-ce qu'il vend ses produits? Est-ce que c'est avec Facebook? Est-ce que c'est juste sur son site internet? Est-ce que c'est une marketplace? Pardon, ça c'était distribution. Et puis promotion, c'est quel type de publicité ils font pour acquérir leurs clients. Donc la solution essaye de globaliser, en fait, d'attaquer tous ces vecteurs-là pour comprendre globalement comment fonctionne la stratégie marketing de son concurrent ou de son distributeur. Donc cette solution, elle a été mise en place. Au départ, sur un échantillon, un millier de références à peu près, sachant que la Palanquée aujourd'hui, c'est 30 000 références. Alors concrètement, je préfère aller direct dans l'essentiel. Voilà à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Là, en fait, on a juste vérifié les prix. Donc qu'est-ce que c'est? Mon client, il est dans cette colonne. Ça, c'est les produits qu'il vend. Et puis là, on a chaque colonne, ce sont ses concurrents. Donc la solution, elle a été très, très designée en termes d'UX, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, mais en gros, elle permet de dire, voilà mes produits, voilà combien moi je les vends, voilà combien sont mes concurrents, ça me permet tout de suite de voir si je suis compétitif ou pas, si c'est rouge, ça va pas trop, si c'est vert, ça va mieux. Et puis, j'ai ici une visibilité sur qui est agressif par rapport à moi, plus c'est foncé, plus c'est un problème. Par catégorie, on a un tri également. Là, c'est trié par quantité, donc il y a beaucoup de produits en combinaison, mais on voit que la couleur des ordinateurs est plus foncée, donc c'est-à-dire qu'il y a un problème de compétitivité plutôt sur les ordinateurs que sur les combinaisons. Là, on a notre belle courbe de Gauss avec tous les prix qui sont comme les miens, donc où je suis placé comme les autres au milieu. De ce côté-là, les autres sont plus chers, et de ce côté-là, les autres sont moins chers que moi. Et surtout, on vient ici rajouter la variable stock. Et en fait, ces graphiques permettent de filtrer et de croiser les données. Par exemple, j'ai envie de savoir où est-ce que mes compétiteurs, mes concurrents sont moins chers que moi, donc toute cette partie-là. Donc je vais aller sélectionner par exemple cet élément, et puis je vais aller voir s'il l'a en stock ou pas. Et du coup, s'il l'a en stock, bah, peut-être je vais réfléchir à me mettre moins cher ou essayer de m'aligner sur ce truc-là. Donc vous le voyez ici, on a mis en place un système de prix conseillé, ce qu'on appelle du repricing, qui va tenir compte bien sûr de ses stocks. Là aujourd'hui, mon client, il vend 339 € ce produit. Il se trouve qu'il a un concurrent à 314 qui n'a pas de stock, mais il en a un autre qui vend à 314 et qui a du stock. Donc nous, ce qu'on lui dit, c'est si tu vends la même chose que l'autre, frais de port équivalent, qu'est-ce que tu dois faire? Le mieux, c'est quand même peut-être de t'aligner pour essayer d'aller devenir compétitif et si ta marge le permet, c'est d'aller le faire en fait. Dans la même dimension, j'ai retiré mes stocks, je vous parle après de ce graphique, on a d'autres visions qui sont plutôt, on va essayer de gratter de la marge, parce que l'objectif, c'est pas seulement d'être le moins cher, vraiment pas. Donc typiquement ici, toi tu es à 536, tu as du stock, on regarde tes concurrents, tiens, il y en a un qui est à 537 qui a du stock aussi, personne n'est moins cher, rajoute 1 €, tu seras quand même le moins cher, équivalent avec les autres, mais tu vas aller gratter 1 € de marge. Mettre en place ça sur des milliers de références, ça fait des milliers d'euros chaque jour en fait qui fonctionnent. En étant compétitif, je vais vendre davantage et puis en récupérant de la marge à chaque fois. Le dernier graphique qui est là, il permet en fait de savoir la stratégie de prix, donc on est vraiment sur mon P de prix, de chaque magasin par rapport aux autres. Quand c'est bleu foncé, ça veut dire moins cher que tout le monde. Donc là, vous savez, lui par exemple, il a en gros un quart où il est moins cher que tout le monde. Lui, par contre, il en a très peu, donc il n'est pas du tout agressif en termes de tarifs. En tout cas, vous arrivez à décrypter en un coup d'œil quel est le positionnement, de quelle façon est-ce qu'ils sont placés sur le marché. Est-ce qu'ils vont être agressifs, pas agressifs, est-ce qu'ils suivent, est-ce qu'ils sont vraiment trop chers. La partie qui est en haut, là, en bleu clair, c'est la partie où ils sont plus chers que tout le monde. Donc là, c'est quand on n'est vraiment pas attentif ou alors qu'on ne veut vraiment pas vendre ces trucs. Ou donner une très mauvaise image à ses clients, enfin au choix. En tout cas, pas la meilleure façon de faire. Autre élément qu'on est allé mettre en place, c'est une surveillance des newsletters. Donc c'est simple, on a mis un collecteur, on récupère toutes les newsletters de tous les concurrents qui sont avec notre client, et puis on établit des statistiques automatisées, très utiles pour une agence, c'est comme ça qu'est née la solution, puisque on voit que toutes les newsletters qui sont communiquées, on arrive à savoir quel jour elles sont sorties, à quelle heure elles sortent, et leur densité en fait. Donc ensuite, vous avez ici la distribution avec la quantité sur une période donnée, le nombre de newsletters qui sont envoyés sur une période donnée, et donc qui permet assez vite de savoir, là le vendredi quand même, il se passe beaucoup de choses. Donc, alors je ne peux pas le faire, ce n'est pas très interactif là, mais quand je clique sur mon vendredi, qu'est-ce que ça fait? Je retire les autres jours, il me reste les horaires des envois sur ce vendredi, et surtout les newsletters qui correspondent à ce vendredi. Donc ça se filtre de cette façon. Donc quand on est une agence, c'est vraiment... hyper confortable, puisque vous allez pouvoir proposer à votre client, le vendredi, tes trois concurrents, ils font une newsletter à chaque fois, et c'est, je sais pas, peut-être à 10h du mat. Soit tu le fais jamais, donc soit, essaye, peut-être que ça va marcher, puisqu'ils le font, c'est peut-être qu'ils sont pas débiles. Et ensuite, peut-être que toi, tu le faisais déjà, mais tu l'envoyais à 6h du mat, et t'as peut-être pas des taux d'ouverture de fou, peut-être qu'il faut l'envoyer à 10h30, tu seras le seul, et là, hop, ça y est, tu seras en haut du panier dans la boîte mail, et peut-être tu vas avoir des taux d'ouverture qui sont vachement plus intéressants. Donc c'est très simple comme approche, mais pragmatique et opérationnel. Et en fait, quand vous avez ce type de vision très rapide, vous pouvez mettre en place votre stratégie derrière et ça marche vraiment très bien. Qu'est-ce que ça permet en fait d'avoir ce relevé temps réel? Ça permet surtout, quand vous êtes à la fois la veille et à la fois l'agence, de produire la réaction. C'est-à-dire que ce qui a fait la grande réussite de Palanquet dans cet exemple, c'est que à chaque fois qu'il y avait une newsletter qui sortait avec, je sais pas quoi, moins 10% sur tout le site ou telle catégorie, etc., on le savait tout de suite, et du coup, on pouvait mettre en place le même mail en réponse immédiatement sur à peu près la même cible, puisque ce sont les mêmes clients. Et ça, les résultats ont vraiment été hyper, hyper bons. Bon, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, les résultats ont été vraiment exceptionnels et je vous montre après dans quelle mesure. Juste une synthèse pour voir un peu ce que ça donne sur une année. En 2019, le nombre de newsletters qui ont été produites, vous vous rendez compte que voilà, le concurrent principal, il est ici. Et en fait, le client, il s'est rendu compte que plus il en faisait et plus il rentrait de l'argent. Et à chaque newsletter, il rentrait 5000 euros de CA. Donc, il s'est dit, je vais en faire plus. Et ça fonctionne vraiment très bien. Encore un élément qu'on surveille, on a mis en place un outil pour surveiller les bannières publicitaires. Donc à chaque fois qu'il y a une bannière publicitaire qui va sortir, il y a un robot qui va la détecter, on va la rentrer dans une chronologie, et surtout on va pouvoir deux choses. La première, c'est alimenter notre réactivité. Tiens, ils viennent de sortir, une fois de plus je ne peux pas cliquer, c'est très frustrant. Tiens, ils viennent de sortir une nouvelle promo, ou un nouveau produit, une nouvelle marque, un nouveau modèle, ou une offre quelconque. C'était samedi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dimanche on envoie la même ou est-ce que samedi dans l'après-midi on est capable de le faire? En général, c'est ce qu'on faisait. Typiquement, là, c'est ce qui s'est passé. Vendredi 7 février, le vieux plongeur a sorti une promo moins 10% sur tout le site. Et dans l'heure qui suivait, il y avait la même sur Palanquet avec moins 10% sur tout le site. Et ça permet d'être, dans le jargon sportif, c'est marquage à la culotte. Donc c'était exactement ce qui s'est passé. Et Décathlon s'est épuisé, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont pris des fois des initiatives, mais assez vite, c'est devenu le suiveur. C'est-à-dire que la TPE de cette personne est devenue l'initiateur des promos que Décathlon essayait de suivre, en fait, tant bien que mal. Sauf que c'est une agence de com derrière qui doit faire ça, ou peut-être même en interne chez Décathlon. Et du coup, ça mettait toujours 3-4 jours pour réagir. Donc, en fait, vous aviez toujours 3-4 jours d'avance. Vous faites une promo, si l'outil met 3 jours à réagir, forcément, c'est moins pertinent. Donc on a mis en place cet outil de la même façon, qui permet également de filtrer, de savoir quel jour il y a le plus d'activité. En vert, vous avez les nouvelles. En rouge, vous avez celles qui sortent. Voilà, typiquement ici, là, vous avez 3 nouvelles qui sont arrivées. Les 3 rouges, ce sont celles qu'il y avait avant et qui ont été retirées. Donc ça permet aussi, rétrospectivement, dans le court terme, de réagir. Et dans le long terme, en fait, de regarder sur la chronologie, sur une longue période, quelle était la dynamique, de quelle façon est-ce que vos concurrents se comportent. Rapidement, du coup, une synthèse par rapport à ça. On voit la dynamique qui ressort donc, de nos principaux concurrents sur ce secteur, la Palanquée et Vieux Plongeur, donc, qui se sont vraiment tirés la bourre pendant un an. On est encore dans un secteur qui est en maturation. Je ne parle pas de la plongée, je parle du e-commerce en général. Tout est en croissance forte, on n'est pas du tout sur une phase plateau. Donc, on est encore dans une phase où plus vous en faites, même un peu mal, et mieux c'est. Donc c'est pareil pour les vidéos, il vaut mieux faire des vidéos un peu pourries, mais plutôt que pas en faire en fait. C'est un peu triste, mais on est encore dans cette phase où il vaut mieux faire que pas faire. Donc plus vous vous agitez en marketing, c'est mieux si vous le faites bien, on est d'accord, mais plus vous vous agitez, et globalement, mieux ça fonctionne. Alors la conclusion, qu'est-ce qu'on a concrètement mis en place et qu'est-ce que ça a permis en fait ce travail de 6 ans avec la Palanquée? Typiquement, l'analyse temps réel, la détection temps réel de toutes les offres qui ont été faites a permis de réagir à chaque fois. Donc soit on laisse faire, tiens, il a fait moins 10%, ouais, mais c'est bon, on a regardé son stock, il a presque plus rien, on le laisse faire, son moins 10, il va bouffer sa marge, on le laisse faire. Pendant 2 jours, on le laisse faire, et puis au 3e jour, mince, il a poursuivi son moins 10, nous on voit que ça baisse un peu en termes de vente ou que ça plafonne, allez, on fait un moins 15, et on l'assassine en fait, on le termine. Donc voilà, ça a été vraiment pensé de manière stratégique comme ça. Donc c'était à la fois sur la réaction en temps réel sur les offres et à la fois, bien sûr, sur les prix en permanence, essayer de s'ajuster pour gagner de la marge tout le temps dès qu'on peut, surtout quand les autres n'ont pas de stock, et c'était clairement la force de la Palanquée par rapport à Vieux Plongeur, et puis d'essayer de rester compétitif en termes de prix. Le suivi des catalogues permet également aussi de détecter des nouvelles marques. Chaque fois que vous êtes attentif à ce qui se passe, vous détectez des nouvelles marques, des nouvelles tendances. Donc vous pouvez les récupérer chez vos concurrents. Tiens, il a rentré une nouvelle marque que je ne connais pas. Hop, je téléphone et j'essaye de la rentrer moi aussi. Pour toujours avoir un catalogue nickel. En tout cas, être le plus compétitif et jamais laisser de la marge de manœuvre. Et vraiment, la meilleure conclusion, c'est clairement la sérénité. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des fausses promos Black Friday. On parlait de ça d'un point de vue juridique. Nous, c'est intéressant parce que 2 semaines avant, on rapporte à nos clients en fait tous les produits qui ont augmenté parmi leurs concurrents. On leur dit, voilà, il y a ça qui a augmenté dans les 15 jours qui précèdent. Ça sent le Black Friday qui va tomber dessus. Donc, ils font plus 30, plus 40 juste avant. Et après, ils vous mettent moins 50, ça fait plus 10. Hein. Voilà, et ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Black Friday palanqué cette année, 2,5 fois l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 2,2, je crois, fois l'année d'avant. Donc, c'est des journées, je vous dis même pas le CA. Mais je vais vous dire le CA quand même. Je vous le dis maintenant. La conclusion, en fait, en 5 ans, c'est que ça, c'est palanqué avant Décathlon. Par ici. Donc là, on a palanqué. Là, on a vieux plongeur. On a mis en place la solution de veille, où on a mis en place l'acharnement marquage à la culotte, pour reprendre l'expression sportive. Et quand vous voyez que ça commence à descendre, là, à chaque fois que vous avez un cran, c'est Décathlon qui a racheté et qui a perdu 500 000 euros au bilan 4 ans d'affilée. Donc, ils ont perdu 2 millions. Je parle du vieux plongeur. Hein. Vieux plongeur, tous les ans, 500 000 au bilan, moins 500 000, moins 500 000, moins 500 000, moins 500 000. Au bout de 4 ans, ils ont fait, c'est bon, on arrête la plongée, on n'y arrivera jamais. Et ils ont fourgué ça à Cabesto, qui est aussi dans le groupe Oxylane. Ils ont fourgué ça à Cabesto il y a 2 ans maintenant. Et le site du vieux plongeur a fermé hier. Et ils ont ouvert un rayon Cabesto, vieux plongeur, dans les magasins Cabesto, grande surface. Et ils ont dit, on a fait une super stratégie, là, vous allez halluciner. Je l'ai mis sur Facebook parce que c'était vraiment trop kiffant de faire ça, parce qu'on fait aussi le community management pardon, de Palanqué. Vieux plongeur a dit, on va faire un super truc, on va vous donner moins de choix, mais on va mettre plus de stock sur tous les choix. On va passer de 20 000 références à 2 000 références. Ouais, bah ils sont morts en fait. Voilà. Ils viennent de se suicider en faisant ça. Ils ont dit, ouais, on passe à 20 000, mais là, on va mettre que 2 000 mieux choisis, mais on est sûr qu'on aura du stock sur ces 2 000 refs. Palanqué à 30 000 refs, et du coup, j'ai mis un petit buzz sur Palanqué en leur disant, désolé, le marché de la plongée, c'est hyper compliqué, on va diviser par 20 notre truc, on passe de 40 000 à 2 000 références, et puis tant pis si vous ne trouvez plus rien, adieu. Et voilà. Alors forcément, le buzz, les gens rigolent et tout. Voilà. Conclusion, et ben en fait, Palanqué, à partir du moment où, parce que je ne vous l'ai pas mis dedans, mais en même temps, il y a Scubaland qui était un site de Brest, qui parle de chasse sous-marine, qui a été racheté aussi par Cabesto et qui a fermé aussi. Ils faisaient 20 ventes par jour à peu près à Scubaland. Ils ont mis une redirection globale sur page d'accueil de tous les produits. Donc ils sont passés de 20 ventes jour et on a mesuré le nombre de ventes d'amélioration pour Cabesto, c'est 2 ventes par jour. Donc ils sont passés de 20 à plus 2. Donc c'était une belle opération. Et là, j'ai hâte de faire les relevés de vente de vieux plongeurs, parce qu'on arrive à récupérer des informations assez précises sur tous les 15 jours ou tous les mois sur les e-commerce. Et donc, ils étaient à 50-60 ventes jour aux vieux plongeurs. Et j'ai hâte de voir chez Cabesto les 2 ventes par jour qu'ils vont gagner, passant de 60 à 2. Et donc, en mourant lamentablement. Voilà. Et donc j'ai prévenu la palanquée depuis déjà 6 mois. Je lui ai dit, tu sais, on sait que le vieux plongeur va fermer parce que ça a été annoncé, il y avait des bruits de couloir. Tu vas faire x2 l'année prochaine, prépare-toi. Donc le savoir, ça permet aussi d'anticiper ça. Pour conclure, vite fait, sur nos secteurs d'activité, on a essayé de voir un peu comment ça produisait des effets. On a pris 100% de nos clients qui ont tous les modules de notre solution. Par secteur d'activité, et voilà les progressions du nombre de ventes sur un an. Donc c'est 100% des éléments entre 2018 et 2019. Ça se passe bien, vraiment. Vraiment, ça se passe bien. Ils ne se plaignent pas trop, et nous non plus.